Édique religieuse par le père Philippe à Saint-Joder, le 21 mars 90.
Nécessairement un signe d'humilité. ça que l'acte d'humilité, voyez, implique l'adoration. Je crois que quand il n'y a plus d'adoration, il ne peut plus y avoir d'humilité. Au sens fort, il peut y avoir encore une justice, mais l'humilité va beaucoup plus loin. Alors, voyez, l'humilité touche à la fois à la justice. La justice dispose à ça, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a l'aspect affectif, d'aimer celui qui a quelque chose que nous n'avons pas, d'une vertu vraiment religieuse, quelque chose de sacré dans l'humilité, vous voyez, parce que c'est en référence avec Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas lutter contre l'orgueil en dehors de l'adoration. Ce qui est très important à bien saisir, ça. Parce que nous avons cette propension à l'orgueil, cette propension naturelle. Dès qu'on doit exercer l'autorité, on a la propension à l'exaltation, à passer devant, à trôner, être assis sur le trône et d'exercer son pouvoir, ce qui est juste inverse de l'humilité. Quand vous exercez un pouvoir sur l'autre qui vous est inférieur, vous risquez de ne plus voir du tout ses qualités. Vous avez une vision particulière, une vision qui n'est plus religieuse, et qui est uniquement humaine. Alors, une rivalité qui regarde une question d'équilibre de force, qui est juste inverse de l'humilité. L'humilité, radicalement, va impliquer une soumission de notre jugement à l'écart de l'autre. C'est pas une vertu intellectuelle, c'est une vertu affective. Et ça touche, vous voyez, une justice qui est en référence avec Dieu. Puisqu'on voit que chaque créature comme créature a un droit. Parce que son âme est créée par Dieu directement. Sacré de chacun, de chaque personne. Et c'est ce droit sacré qu'on respecte dans l'humilité pour le laisser passer devant nous. Et pour cela, il y a, j'allais dire, un jugement pratique à l'égard de cette personne qui est proche de nous. On essaie de la regarder dans la lumière de Dieu pour l'aimer comme Dieu l'aime, en la respectant radicalement et en faisant que notre jugement pratique soit au service de l'amour que nous pouvons avoir pour elle, d'un amour naturel, pas surnaturel. C'est très fondamental, l'humilité. C'est le fondement de toute communauté religieuse. Religieuse, pas au sens des vœux de religion. Religieuse dans le sens philosophique. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de communauté vraiment humaine puisse permettre l'épanouissement sans l'humilité. Parce qu'autrement, très très vite, on se trouve devant l'organisation. Et l'organisation prend le pas sur la relation personnelle.
Puisqu'il y a cette dimension communautaire, est-ce que les pythagoriciens, justement, qui développent cette dimension-là, n'ont pas cette
possibilité de... Pas beaucoup. C'est... Vous voyez, les Grecs ont eu très fort le sens de l'hubris, l'orgueil, que les dieux n'aiment pas l'orgueil et que les dieux punissent l'orgueil. Ils ont eu très fort ça. Mais ils ont eu peu le sens de l'humilité comme vertu. D'où ça vient? Ben, je crois que c'est parce que l'orgueil n'a pas été entièrement dépassé et dominé. Alors ils ont lutté contre l'orgueil. C'est du reste très intéressant au point de vue éthique chrétienne. Vous voyez, l'éthique chrétienne montrera qu'on ne peut être vraiment victorieux de l'orgueil que par la grâce. Alors ça vient confirmer ça, qu'un point de vue purement humain, on lutte contre l'orgueil. Et lutter contre l'orgueil, c'est pas encore être victorieux et entrer dans l'humilité. C'est déjà quelque chose. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui lutte contre l'orgueil, c'est toujours sympathique de voir le pauvre type qui est pris par ses tentations d'orgueil et qui revient vite dessus. Ou elle s'aperçoit ce que c'est. Ce qui est terriblement difficile, c'est dans la vie religieuse, quand vous voyez quelqu'un qui est d'une vanité et d'un orgueil inconscient, prodigieux. C'est terrible. Il faut que tout le temps, c'est lui qui a raison. Ça se voit, ça, ça se voit. On est tous un peu comme ça, mais on essaie de lutter quand même. Alors ça, c'est sympathique. Mais de voir que on ne lutte pas contre ça, et puis qu'on... Voyez, c'est le pan qui fait la roue. Il n'y a que moi. Je suis le seul. Le seul. Mais, alors ça, c'est terrible. Ça, c'est l'orgueil. La vanité, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est le dindon qui fait la roue. Pas tout à fait la même chose. Les plumes sont moins belles. Mais il s'impose, il n'a plus de poids. Alors, c'est plus lourd. Mais c'est très difficile de lutter contre la vanité et l'orgueil. Au point de vue vie commune. Parce que c'est la pièce fondamentale de la vie commune, l'humilité. Et ça implique donc, vous voyez, que l'intelligence pratique soit au service de l'amour. Pour que l'amour à l'égard de celui qui est proche de nous dépasse ce sentiment que nous avons de critiquer l'autre. Instinctivement, on le critique. C'est une sauvegarde à l'égard de notre amour propre, à l'égard de notre vanité, à l'égard de notre orgueil. Humilier le voisin, c'est s'exalter. Voyez bien ça. C'est pas vrai du tout, hein. Mais c'est constamment comme ça le piège. Ça, c'est le piège de l'orgueil. Humilier le voisin, c'est s'exalter. Alors qu'au contraire, reconnaître les qualités du voisin, c'est s'exalter. Ça, il faut être humble pour reconnaître ça. Dans l'autre pratique, hein, théoriquement, on est tout à fait d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Mais dans la pratique, c'est pas comme ça du tout. De comprendre que exalter le prochain, qui est à côté de nous, c'est au fond, donc exalter le prochain dans le sens de l'humilité, c'est s'exalter, c'est s'agrandir, puisque c'est regarder le prochain dans la lumière de Dieu. C'est pour ça que l'humilité et la magnanimité vont de pair. C'est l'humilité qui va permettre, on verra la magnanimité, je le situe simplement maintenant comme ça, parce que ça c'est une vertu aussi religieuse. Être magnanime, être grand de cœur. Il est bien évident que c'est la jalousie, que c'est l'orgueil, que c'est la vanité qui diminue notre affectivité, qui empêche notre affectivité d'aller jusqu'au bout. Ça empoisonne. Il n'y a rien qui empoisonne plus que un orgueil consenti, une jalousie consentie, une vanité consentie, consciente et organisée. C'est les tentations de vanité, les tentations d'orgueil, les tentations de jalousie, ça c'est normal que ça existe. Et ça nous permet d'être plus humbles. Parce qu'on lutte, on lutte. Et c'est sympathique quelqu'un qui lutte. C'est sympathique pour Dieu. Ah, le pauvre type hein, qui rame comme il peut. Il a de la peine, c'est difficile. Ça rame casse, il en a une autre, heureusement on rechange. Et puis ainsi de suite. Mais c'est difficile, c'est pas commode. Alors on a une figure de quelqu'un qui lutte, la figure de celui qui est sur le front. Il n'est pas content de lui-même. À côté de l'humilité, il y a la vertu d'obéissance. J'ai fait passer avant l'humilité, contrairement à ce que je crois, ce que je l'avais indiqué. Parce que, en réfléchissant bien, l'humilité est plus proche de l'adoration que l'obéissance.
Étant donné qu'il y a l'orgueil et la vanité, une seule vertu qui doit lutter contre les deux, puisqu'il ne va pas y avoir deux vanités.
Deux vertus, deux.
Étant donné qu'il y a deux défauts distincts, l'orgueil
et la vanité.
Est-ce que c'est une seule vertu qui doit lutter?
Les vices sont multiples et les vertus tendent à unifier. C'est sûr, je suis d'accord avec vous, l'humilité, c'est directement contre l'orgueil. Oui. Donc c'est beaucoup plus personnel et individuel. La jalousie, elle s'épanouit en vase clos, en communauté. Alors, la vanité irait plus contre l'exercice de l'humilité lié à l'aspect de générosité vis-à-vis des autres, à l'aspect du don de nous-mêmes, c'est la générosité. Mais c'est plutôt après. C'est pour ça que l'humilité fondamentalement lutte contre l'orgueil, la vanité et la jalousie. Mais fondamentalement, vous voyez, parce que c'est radical. C'est l'orgueil qui est à la source de la jalousie, c'est sûr. C'est l'orgueil qui est à la source de la grosse vanité. Donc, luttant, vous voyez, elle lutte contre ce qui est radical, mais pas directement. L'obéissance. Quelqu'un comme Aristote, c'est intéressant de voir ça dans l'éthique d'Aristote, hein. Chercher l'humilité dans l'éthique d'Aristote. Non. Chercher l'obéissance dans l'éthique d'Aristote, non. Et là, on voit les limites. Parce qu'Aristote aurait pu nous donner une éthique religieuse. Ne l'a pas donné. L'éthique religieuse sera beaucoup plus chez les néoplatoniciens. Oui.
Aristote ne parle pas d'obéissance par rapport au
marbre. Oui, mais c'est ce que nous allons voir. Oui, c'est Ça fait partie de la topique. Pour Aristote, c'est net. Vous voyez, donc l'obéissance n'est pas vue comme une vertu humaine. Elle est vue comme une disposition de quelqu'un qui reconnaît son incapacité de se conduire prudemment. Alors vous avez besoin d'un tuteur. L'enfant a besoin de ses parents. Autrement, il ferait des tas de bêtises. L'esclave a besoin de son maître. Autrement, il n'y arriverait pas. Et la femme a besoin de l'homme et du mari. Alors, on voit bien qu'Aristote n'a pas vu vraiment la vertu d'obéissance comme une vertu humaine. C'est une disposition en raison d'un état d'infériorité. Je suis dans cet état d'infériorité que je suis incapable d'acquérir la vertu de prudence. Ça existe. Certaines personnes qui n'acquériront jamais la vertu de prudence. En raison de passion trop forte, en raison de... Ils sont beaucoup trop artistes. Les artistes sont pas prudents, d'ailleurs. Alors, ils auront besoin d'avoir à côté d'eux quelqu'un qui sera prudent. Et qui les aidera dans la prudence. Semble, et c'est ce que nous allons voir, que l'éthique religieuse va creuser dans l'homme une capacité à acquérir une vertu d'obéissance. Comme le point de vue religieux permet à l'homme d'acquérir une vertu d'humilité. Pas seulement une disposition. Vous voyez la différence, hein ? La disposition est instable. La vertu est stable. La vertu implique un habitus qui saisit un nouveau principe moral. Le nouveau principe au point de vue humilité, c'est de comprendre que on est radicalement dépendant de Dieu. Et donc, que nos qualités ne sont que participées. Si nos qualités ne sont que participées, il faut reconnaître qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui a reçu une autre participation. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose de stable dans la vertu d'humilité. En raison de l'adoration. En raison de la dépendance reconnue à l'égard de Dieu, qui nous donne un regard nouveau sur notre prochain, sur celui qui est à côté de nous. Nous dépendons les uns et les autres d'un même Créateur. Et nous recevons de ce Créateur des qualités différentes. Et donc, fondamentalement, nous devons nous aimer. Parce que nous avons le même Père qui fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Bien, lorsqu'il s'agit de l'obéissance, c'est la même chose. La vertu d'obéissance ne repose pas premièrement sur l'état d'infériorité dans lequel on se trouve, parce qu'on est incapable de porter un jugement prudentiel ça c'est très important pour bien saisir ce que c'est que l'éthique religieuse. L'éthique religieuse est basée là-dessus, vous voyez. C'est l'homme comme créature de Dieu. C'est pas l'homme tout court, ou c'est pas tel homme. C'est pas tel état d'infirmité, tel état de faiblesse. Alors, essayons à partir de là de comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vertu d'obéissance. Reconnaître prudentiellement, donc dans un acte d'intelligence pratique, qu'il y a un ordre parmi les créatures de Dieu. Je ne dis pas une hiérarchie, un ordre. La hiérarchie, ce sera au niveau chrétien. Un ordre que Dieu crée toutes choses avec ordre, mesure et poids. Que Dieu ne crée pas tout le monde égal. Que Dieu, au contraire, fait que toutes les créatures raisonnables ont des qualités différentes. Fonder un ordre. Vous voyez, tout de suite, il faut lutter contre ce slogan que tous les hommes sont égaux. Et non, tous les hommes ne sont pas égaux. Ils sont tous des têtes différentes. Vous voyez, si on aurait tous la même tête, ce serait amusant. On serait vite fatigué, hein. Diversité plus grande que dans la vie végétative et que dans la vie animale. Entre les hommes, il y a une plus grande différence que dans la vie végétative ou dans la vie animale. L'âme qui vient informer le corps et qui est créée par Dieu va mettre dans le corps et dans la sensibilité une diversité plus grande que celle qui existe au niveau végétatif et au niveau animal. Une fois qu'on reconnaît ça, oui, ça repose encore sur l'adoration. Une adoration qui reconnaît cette diversité plus grande dans les hommes, bien qu'il y ait la même nature. Mais il y a une synthèse de la complexité de l'homme qui implique une diversité plus grande chez les hommes que chez les autres êtres, parce qu'ils tendent vers une perfection plus grande. Et donc il y a une diversité plus grande. Et une fois qu'on reconnaît cette diversité, on reconnaît tout de suite qu'on peut se servir de cette diversité. En reconnaissant qu'il y a des êtres plus capables que nous dans tel domaine. Et on leur reconnaît alors à ce moment-là l'autorité. Voyez, c'est quelque chose de très important, ça. Essayez de comprendre la naissance de l'autorité. Y a-t-il autorité chez les animaux? vivent alors en peuple, en troupeau. Des animaux moins nobles, ils vivent en troupeau. Troupeau de biches sauvages, de vaches sauvages. Les chevaux vivent comme ça, ensemble. Hein, il y a comme un peuple. C'est très curieux de voir ça chez les animaux. Hein. Avec l'homme apparaît une plus grande diversité. Il apparaît l'intelligence. Et par l'intelligence, la prudence. Et par la prudence, l'autorité. L'autorité de l'homme repose sur la prudence. Alors, question très très intéressante, de savoir si l'autorité existe au niveau purement éthique, humaine, ou est-ce qu'elle n'apparaît qu'avec l'éthique religieuse. On l'a pas traité en éthique humaine. Alors ici, on est obligé de la traiter. Autrement dit, est-ce que l'autorité est nécessairement religieuse? Ça, c'est un pavé hein, qu'on lance là. Déjà, supprimer l'égalité, pas très agréable. Hein. Dans la démocratie, dans la sacrée démocratie, qui n'est pas sacrée du tout. Parce que c'est justement l'inverse du sacré, la démocratie. C'est l'égalité. C'est une question très importante. Eh bien, je crois qu'au niveau purement éthique humaine, l'autorité apparaît avec la famille. Donc l'autorité première se fonde sur la génération, la procréation. Et de cette autorité familiale va naître l'autorité politique. Donc l'autorité n'est pas sacrée. Elle est paternelle. Et elle est politique. Il me semble bien qu'on doit dire ça. C'est intéressant à noter. Se distingue tout de suite du pouvoir. L'autorité paternelle a un pouvoir limité, très limité. Bien que dans certaines familles, le pater familias avait autorité avec le droit sur la vie. Puisque le pater familias pouvait, dans le point de vue politique, romaine et grecque, supprimer les enfants difformes. Autorité sur l'enfant. Il faut bien le reconnaître. Familias avait sur le droit de la vie. Donc vous voyez, là il y a un très grand pouvoir. Une exagération. Le sens de la vie et de la vie humaine n'était pas assez poussé pour supprimer ce pouvoir du pater familias. Et quand le pater familias n'avait pas ça, c'était les temps. Sparte. Avait cet état-là, avait cette autorité-là, ce pouvoir plus exactement. Ben, il faut bien distinguer au niveau politique, humaine, l'autorité et le pouvoir. Bon, on l'a pas vu, parce qu'on n'a pas vu la philosophie politique. Je crois que c'est important de se le rappeler. Vous voyez, l'autorité, c'est un service. Le pouvoir, c'est une domination. domination. L'autorité est finalisée comme un service. Le pouvoir, au contraire, c'est l'efficience. Au niveau éthique religieux, l'obéissance est relative à l'autorité.